La personne assise en face de moi est fraîchement arrivée du sud, d'Aix-en-Provence exactement. Elle porte avec elle la lumière de cette région. Elle a le teint légèrement hâlé, les cheveux châtains, lisses, très longs. Et puis, elle porte une robe en éponge vert bouteille. Je suis Lauriane Meulière et je reçois l'architecte Amélia Tavella. Bienvenue dans Émotion de peau, un podcast MyBlend. Je viens de te décrire à l'instant. Comment est-ce que tu as l'habitude de te présenter, toi, quand tu te regardes avec tes yeux?
Trois mots. Femme, Corse, architecte. Mon identité, elle se construit à partir, je crois, d'un territoire d'abord, une île, mais aussi à partir d'une matrice, la féminité, être une femme et être une maman également. La maternité des projets, la maternité plus classique, celle qu'on a pour nos enfants.
Comment est-ce que la Corse rejaillit en toi? Puisque tu as cité la Corse très rapidement quand je t'ai demandé de te présenter. Qu'est-ce qu'elle a fait de toi?
J'ai grandi dans le maquis corse. Je faisais énormément d'équitation enfant et adolescente. Et j'ai toujours été confrontée à sa beauté, à son espèce de sauvagerie très invasive qui vous constitue par la suite, qui vous constitue adulte. Enfants, adolescents, on n'a pas conscience de cette chance d'évoluer dans un terrain sauvage. C'est encore possible en Corse et c'est à préserver. Et c'est certainement ce qui a conditionné beaucoup de choses par la suite dans ma vie. Alors, je n'y vis pas aujourd'hui, mais j'ai trouvé une façon d'y revenir très, très régulièrement puisque je construis pour elle très, très souvent. Je construis ou je reconstruis.
Comment est-ce que tu as su que tu serais architecte? Est-ce que tes parents, peut-être, ont joué un rôle là-dedans?
Il se trouve que ma mère a effectivement été très active, de façon certainement inconsciente, hein, dans tout ce qu'elle m'a transmis de cette nécessité en tant que femme d'autonomie, d'indépendance, un peu à l'image de la Corse. Moi, j'ai décidé d'exercer ce métier à titre libéral. J'ai toujours voulu l'exercer dans une certaine forme de solitude, plutôt comme un artiste, en étant dans une forme de dénuement de plus en plus poussé et se limiter à une équipe assez restreinte autour de moi. C'est vrai que ma mère qui nous a élevés, on peut dire, toute seule, dans les années les plus importantes de notre vie, mes deux frères et moi, n'a jamais vraiment fait de différence entre le fait que je sois une fille face à deux garçons. Donc, elle m'a donné cette confiance et cette croyance, cette foi de penser que tout était possible pour une femme, pour une jeune femme, au même titre que mes frères. Et je pense que cette dimension-là, cette transmission, avec ce que m'a transmis la Corse par ailleurs, cette quête, ce désir permanent de beauté, ont fait l'architecte que je suis. Comme énormément d'enfants des années, je sais pas, des années 80. Nos parents ont divorcé à un moment donné et ma mère s'est trouvée un peu seule avec ses trois enfants. Cette situation-là n'a jamais donné lieu de sa part à un quelconque renoncement quant à nos carrières respectives. Mes deux frères sont notaires. Moi, je suis architecte. Voilà, on a eu la chance tous les trois de partir dans des grandes villes, dont Paris, pour moi, l'a tout mis en œuvre, un certain nombre de sacrifices pour qu'on ait à notre disposition tous les outils nécessaires pour être des adultes accomplis.
Qu'est-ce que tu ressens en termes d'émotion quand tu penses à elle et à ce qu'elle t'a transmis? Comment est-ce qu'elle s'est marquée en toi et comment est-ce qu'elle s'est imprimée dans ta peau, ta maman?
Mais c'est beaucoup d'odeurs, je crois. Elle est toujours très proche de tout ce qu'on rapproche de la femme. Il y a ce rapport à la peau et des odeurs dont je me rappelle, de parfums, de peau bronzée, parce que c'est beaucoup de soleil, c'est beaucoup la plage. La Corse, elle a quelque chose d'extrêmement sensuel dans ce qu'elle offre. Et je pense qu'elle rend la femme encore plus belle.
Est-ce que tu peux me résumer ton parcours de ton enfance jusqu'à ton entrée dans la vie adulte?
J'ai grandi dans une école plutôt sauvage sur la rive sud d'Ajaccio, que j'ai quittée ensuite pour aller au lycée Fesch à Ajaccio, de l'autre côté de la rive. Et puis, comme beaucoup d'étudiants corses, j'ai encore traversé la rive, mais un petit peu plus loin, pour me rendre à Paris. J'ai quitté la Corse pour le continent après mon bac pour faire des études d'architecture à Paris, à l'école spéciale d'architecture Boulevard Raspail.
Qu'est-ce que tu penses de Paris quand tu arrives?
Il y a quelque chose d'assez inquiétant quand même, parce que en tant qu'insulaire, c'était une forme d'inconnu, mais en même temps quelque chose de très attirant. Je suis tombée amoureuse de cette ville, de ce qu'elle m'offrait, de la beauté, de sa morphologie. Et c'était un peu la ville de toutes les promesses.
Quand tu arrives à Paris, tu as 18 ans. La Corse a ses propres codes en matière de beauté, son propre rapport au corps dénudé, au soleil. Paris, c'est une ville plutôt en contradiction avec cette esthétique. Le corps est moins visible. Est-ce que tu peux me parler de ton rapport à l'apparence et notamment à ton corps entre la Corse et Paris dans cette période de construction, de recherche identitaire qui est la sortie de l'enfance et de l'entrée dans l'âge adulte?
La Corse, elle a quelque chose d'assez particulier, mais je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans un certain nombre de villes méditerranéennes, de villes italiennes, et Ajaccio en particulier. Je m'en suis rendu compte dernièrement parce qu'on a fait, dans le cadre d'une des études que je mène en tant qu'archi, j'ai fait tout un diagnostic sensible de la ville d'Ajaccio et je me suis rapprochée d'une sociologue, Lisa Terrazzoni, qui est spécialiste de l'altérité et spécialiste de la Corse. Et ensemble, on est allé en quête de l'âme de cette ville. Personne ne l'avait jamais fait. Pour étudier un quartier très spécifique de la ville, pour offrir ensuite un projet qui soit totalement adapté aux pratiques des Ajacciens, on a mis à jour notamment la notion de spacidiate. Ça veut dire déambuler. Et on se rend compte de cette espèce de sociabilité en Corse qui se fait en marchant. Et à certaines heures de la journée, et beaucoup le soir, les gens sortent. Et c'est un rendez-vous qui n'est pas programmé, mais qui est quotidien. Et les gens sortent à la fois pour se montrer et pour voir les autres. Donc il y a une espèce de notion d'apparat, quelque chose d'assez m'as-tu vu, en fait. Très insulaire. Je pense que cette dimension-là, vraiment ajaccien, a certainement influé sur moi dans la façon dont j'ai grandi et dans le regard qu'on pouvait porter sur moi. Il y a certainement une forme de contrôle que j'ai pu lâcher quand je suis arrivée ensuite à Paris. Autant sur une façon d'être que sur une façon de se vêtir.
Qu'est-ce qui a changé?
Plus de liberté. Je dis souvent que la Corse aurait été pour moi une ouverture à tous les horizons, mais il fallait partir, justement.
Pendant une dizaine d'années, tu bâtis littéralement ta carrière d'architecte. Sur quel type de projet tu travailles et quel rapport t'entretiens à ton métier à ce moment-là?
Alors, après mes études d'architecture, je fais un DESS de droit de construction, aménagement, urbanisme, pour avoir un bagage un peu plus solide. Je continue une formation de développement durable et puis j'entame 7 ans de collaboration avec une agence à Aix-en-Provence. Je travaille majoritairement sur des équipements publics. C'est peut-être ça qui me donne le goût de ce que je ferai par la suite. Ce rapport très fort aux équipements qui accueillent du public.
Est-ce que tu te sens bien dans ta peau jeune architecte? Est-ce que tu te sens bien dans ta peau de femme?
Je pense que je suis comme anesthésiée. Une enfance un peu compliquée. Très heureuse en apparence, mais un certain nombre de trucs qui m'ont certainement marquée, voilà, la distance par rapport à mon papa, enfin ce genre de trucs qui font qu'à un moment donné, je crois que l'esprit a cette intelligence de couper un peu les sensations et de les différer pour plus tard. De ce fait, j'avais une espèce de vie un peu sous cellophane, dans une espèce de forme de perfection, comme ça, avec un enfant d'abord, un deuxième très vite ensuite. Parce que j'avais adoré porter la première, mais oui, anesthésiée. Et j'en ai eu conscience ensuite, quand j'ai vraiment vécu des choses qui m'ont atteinte, et que je me suis laissée atteindre par un certain nombre de choses, ce qui n'a pas été le cas pendant très longtemps. Donc j'avais tout échafaudé, je pense que mon inconscient avait tout échafaudé pour que rien ne soit jamais plus douloureux. Mais ça veut dire qu'on est coupé de toutes les émotions, y compris les bonnes.
Donc, tu commences à travailler dans un cabinet d'architecture, tu habites à Aix-en-Provence, tu grimpes les échelons, tu as un compagnon, 2 enfants, un bel appartement, un métier valorisé socialement qui te permet d'être autonome. Tu as sur le papier, comme on dit souvent, tout pour être heureuse. Pourtant, tu ne l'es pas. Tu es triste et tu n'arrives pas à être en contact justement avec une forme d'apaisement, de bien-être. Comment est-ce que tu réalises que quelque chose cloche, que quelque chose ne va pas? Et est-ce que tu peux me parler notamment de ton corps?
Ouais, le corps a cette intelligence-là qu'il faut savoir entendre. Mon corps était en train de me dire qu'il fallait absolument métamorphoser un certain nombre de choses dans ma vie pour être plus en phase avec ce que j'étais réellement. Ouais, c'est presque des choix par le négatif. J'ai dû être architecte assez jeune, enfant, parce que très souvent, je ressentais soit une sensation très désagréable dans le lieu dans lequel j'étais. J'avais beaucoup de difficultés avec les milieux ruraux. C'est peut-être la présence d'un cimetière très proche d'une église et très proche des lieux dans lesquels on habitait, cette conscience de la précarité de la vie, enfin que des trucs existentiels qu'ont les enfants très souvent à un certain âge, faisait que la dimension rurale d'un lieu était assez angoissante pour moi. Alors que certains lieux me réjouissaient beaucoup plus que l'effet qu'ils pouvaient faire sur d'autres enfants. Donc j'avais quand même ce rapport à l'espace depuis l'enfance très particulier. Et je pense que quand on a cette dimension-là en soi, cette possibilité de ressentir les choses, on est forcément à l'écoute de son corps. Alors moi, je m'en suis coupée très longtemps par nécessité pour ne pas souffrir. Et puis, à un moment donné, quand certainement votre esprit considère que vous avez tout accompli, déclenche ce dont on a parlé, tous ces symptômes, pour vous pousser à aller plus loin. Ce passage de cap, il se fait à travers un travail psychanalytique, enfin, du moins c'est le choix que j'ai fait moi, un travail introspectif.
Tu parles souvent de beauté, le beau, etc. On sent que c'est un sujet qui t'anime. Est-ce que tu te trouvais belle pendant cette période?
Non, je pense que je n'avais pas pleinement possession de ma féminité. Je pense qu'elle appartenait à d'autres. Tout est question d'émancipation. Je pense qu'on appartient certainement au regard de nos parents, celui de notre mère, celui de notre père. Donc il y a cette échappée-là à opérer qui est compliquée. Ce travail psychanalytique que j'ai fait donc, avec une philosophe et psychanalyste extraordinaire qui est Anne Dufour-Mantel, il m'a permis de remonter le fil de soi, de faire en sorte que les choses évoluent finalement assez naturellement vers quelque chose qui me correspondait davantage dans la façon de mener ma vie.
Est-ce que tu peux me parler de la psychologue que tu choisis? À quoi ressemblent ensuite vos premières séances?
Alors, c'est une femme que je découvre à travers la presse, qui m'interroge. Alors, j'achète ses livres, j'en lis un certain nombre, tout me parle. Je finis par la contacter. Et elle accepte de me recevoir et on commence comme ça une grande conversation hebdomadaire où je me déplace à Paris une fois par semaine. Cette espèce de chemin initiatique, ces allées et venues entre Paris et Aix-en-Provence. Et ça se passe comme ça deux fois dans la journée avec un certain temps entre deux séances pour quelque chose arrive. Et elle m'apprend d'abord à travers ses livres et ensuite dans ce qu'on se raconte. Elle m'apprend l'éloge du risque. Elle m'apprend la puissance de la douceur. Donc, c'est deux livres fondateurs de son œuvre qui sont à lire et relire, qui auront un écho extrêmement puissant chez moi. Cette personne-là a disparu depuis, de façon très héroïque, en sauvant deux enfants de la noyade sur la plage de Ramatuelle. Et j'ai poursuivi ce travail-là avec en tête ces deux valeurs, je dirais, qui sont une forme de leitmotiv aussi bien dans mon travail que dans ma vie et celle de ceux qui la partagent. Une forme de prise de risque permanente pour que quelque chose arrive, pour que des rencontres se fassent, des rencontres qui ne sont pas forcément avec des gens, mais des rencontres avec des pensées, un lieu. Une sensation, la beauté et la puissance de la douceur. La douceur est source de transformation, de métamorphose, véritablement. C'est par là que les choses arrivent, je dirais. Et non pas par le conflit, par la violence, quête de pouvoir effrénée. Alors, je prends ce parti-là de façon très, très, avec énormément de modestie pour faire mon chemin.
Est-ce que tu dirais que tu manquais de douceur et que tu avais du mal à prendre des risques jusque-là ?
Parfaitement, oui. Mais cette histoire d'anesthésie pendant tant d'années, cette espèce de dictature, certainement, qu'on a tous autour de nous, du carcan familial, enfin, quantité de choses qui font qu'on n'ose pas. Je pense que c'est un travail long et salutaire d'aller à la rencontre de soi.
Qu'est-ce qu'elle disait sur la peau, sur l'enveloppe corporelle, Anne Dufour-Montel ?
Je me rappelle qu'elle disait quelque chose sur la caresse, cette histoire d'effleurement. Mais je trouve que c'est même dans le mot lui-même, caresse.
Qu'est-ce qui t'évoque ce mot ?
Il m'évoque la peau, forcément. Et il m'évoque le soin, il m'évoque autant de sensibilité que de sensualité.
Quel changement est-ce que tu as pu constater sur ta peau et sur ton corps, sur ton rapport justement à la sensualité, ton rapport à la caresse pendant cette période de thérapie ? Qu'est-ce qui a changé chez toi ?
Je pense que j'ai rajeuni. Je pense que j'ai pris pleinement possession de ma féminité. Il y a certainement une forme de sourire qui arrive, même si la vie est beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'était sous cellophane, il y a un sourire qui est inscrit parce qu'on sent une forme de joie.
Grâce à cette thérapie, comment est-ce que ta vie change ? Quelles décisions tu prends ? Qu'est-ce que tu bouleverses ?
Prendre le parti de faire un peu plus cavalier seul. Enfin, c'est ça qui se passe à un moment donné. Même si c'est plus compliqué de poursuivre ma vie dans une certaine forme de solitude, parce que j'étais plus à ma place là où j'étais, en restant la maman que j'étais, et justement en déployant davantage cette maternité, parce que quand on est seul avec ses enfants, on est encore plus on partage énormément plus de choses avec elle. Et moi, ces tête-à-tête avec mes enfants ont été aussi assez fondateurs pour la suite, et notamment du lien qu'on a, elle et moi, et de tout ce que je leur transmets aujourd'hui, qui pour moi est vital. Tu fous un bordel invraisemblable dans tout ce qui est ta vie. Énormément de personnes sont assez mécontentes, parce que ça les regarde aussi. Mais le bouleversement est salutaire et est nécessaire. La vie prend une toute autre dimension.
Le monde de l'architecture est un monde encore éminemment masculin. Est-ce que tu as déjà été victime de sexisme dans ce monde-là ? Et comment est-ce que ta féminité prenait sa place dans ce monde-là ?
Alors, moi, je suis arrivée avec une forme de naïveté dans ce métier-là, avec toute la confiance que m'avait donnée ma mère en me disant que tout était toujours possible. Tant que vous ne dérangez pas, il n'y a pas trop de manifestations de la part de vos confrères. C'est quand vous commencez à prendre un petit peu plus de place que des manifestations assez désagréables peuvent arriver. Ça m'est arrivé qu'on tente de me déposséder de quelque chose qui m'appartenait, dans l'acte de créer, justement. Ça m'est arrivé d'avoir affaire à de l'abus de pouvoir de la part de certains hommes. L'usage du pouvoir est quand même quelque chose d'éminemment masculin. Face à cette forme d'adversité très désagréable, moi, j'ai pris le parti de me positionner plutôt intelligemment et avec les armes qui sont celles des femmes, c'est-à-dire regarder les choses avec une certaine hauteur, mais avoir une forme de stratégie pour que ça n'arrive pas deux fois, quoi. Et les choses sont dites aussi, de façon assez ferme, sans hystérie, puisqu'on est souvent accusé d'hystérie, nous, les femmes. Alors, être une femme architecte, c'est pour moi quelque chose d'assez scabreux, ces deux mots ensemble. On nous demande souvent, en tant que femme qui exerçons ce métier, ce qu'on en pense. On vous parle souvent de faire une architecture assez féminine, et ben, ça peut être celle d'un homme, selon moi. De la même manière qu'une femme peut avoir une forme d'austérité dans l'architecture qu'elle crée. Je pense que chaque individu, et puis chaque architecte a son geste qui lui appartient et qu'il est teinté des deux, finalement.
Et toi, comment est-ce que tu travailles ?
Par exemple, cette dimension très sensuelle que moi je porte sur l'enveloppe d'un bâtiment, sur sa peau, elle m'appartient. Je ne pense pas que ça caractérise toute l'architecture au féminin. Je pense que à titre personnel, ça existe, ça arrive comme ça parce que j'ai le parcours que j'ai ce rapport très singulier à l'île sur laquelle je suis née. Et puis, j'ai une vision très poétique de la vie et j'ai toujours envie de penser que finalement, ces bâtiments, ces édifices, beaucoup ceux que je réhabilite d'ailleurs, qui ont réinsuffle de la vie, sont organiques, ont une forme d'existence, qui n'ont rien de figé. C'est toujours des expérimentations super intéressantes, en plus, que ce soit du bois, du métal, de la pierre, systématiquement et de façon impérative, des matériaux naturels.
Pourquoi est-ce que tu parles de la peau et de l'enveloppe d'un bâtiment ? C'est quand même assez peu commun.
Parce que je lui donne cette dimension organique et que, pour moi, il est indispensable que, en vieillissant, le bâtiment soit de plus en plus beau. Et j'ai envie de lire sur sa peau, sur son enveloppe, les différentes strates historiques, le temps qui passe sur lui, de l'empreinte que ça va laisser sur le bâtiment. Et le cuivre, pour ça, est un matériau extraordinaire parce que il se patine véritablement, il s'oxyde. Il y a de véritables réactions chimiques qui font que le matériau évolue, est changeant. De la même manière, quand on fait un bâtiment en granit, très souvent, le granit qui se couvre de mousse, enfin, très vite, on rend à la nature ce qu'on lui avait pris. Et moi, j'aime cette symbiose entre les deux, cette harmonie, justement, entre la nature et le bâtiment, et presque qu'ils disparaissent. Et mon dernier projet de réhabilitation, justement, c'est un couvent qui était en ruine. Et ça a été, pour moi, une émotion extrêmement particulière de le refaire vivre avec des choix architecturaux et artistiques très particuliers qui peuvent déplaire. Hein. Le fait de conserver le bâtiment dans son état de ruine, et puis on vient créer une extension dans un matériau complètement différent avec la volumétrie de celle qui existait par le passé. Le couvent date de 1480 et on prie pour que la grève prenne.
Cette idée de bâtiments qui embellissent avec le temps, qui se patinent, dont on sublime l'effondrement, qui deviennent autres, encore plus beaux. Est-ce que c'est aussi ta vision du vieillissement pour les corps des hommes et des femmes ?
Ah, inévitablement. Ce que je trouve intéressant sur les traces que laisse le temps sur ces édifices, c'est qu'ils sont le témoin de la grande histoire. Et qu'il y a une espèce de presque de vertige à imaginer la richesse en soi, d'avoir traversé un temps si long. Et c'est en ça que je pense que c'est intéressant de le transposer chez nous, sur notre propre peau, d'un homme, d'une femme. Il y a quelque chose d'éminemment émouvant, touchant, de les percevoir. Ce n'est pas des stigmates, c'est des empreintes, des traces de ce que la vie fait sur nous.
Et quel rapport t'entretiens avec les traces du temps qui passe sur toi et sur ta peau ?
J'ai une vie assez particulière qui fait qu'il y a peu de temps pour se reposer, de mener tout de front comme ça. Donc souvent, on me dit « tu as l'air fatiguée », ce qui est une réalité. Je suis toujours épuisée, mais portée par quelque chose. Je pense qu'il faut avoir vraiment à l'esprit, se rappeler sans cesse justement qu'il faut prendre soin de soi et s'octroyer ce temps-là, se l'autoriser. Moi, je fais partie des gens qui prennent extrêmement peu de vacances. Voilà, moi, le travail qu'il faut que je fasse aujourd'hui, c'est m'octroyer, m'autoriser davantage de temps à titre personnel.
On va parler de maternité. Comment est-ce que tu décrirais tes deux filles ?
Alors, j'ai deux filles. Marie-Amélie, la plus grande, qui va avoir 16 ans, qui veut qu'on l'appelle mamé. Et puis Mathilde, qui va avoir 14 ans. Et Mathilde et Marie-Amélie, elles sont très complémentaires, très différentes. Et ça donne envie d'avoir 10 enfants pour voir à chaque fois quel est le résultat, d'ailleurs. Et donc, j'ai un enfant brun aux yeux marrons et un enfant blond aux yeux bleus. Et elles ont des personnalités très affirmées, très différentes l'une de l'autre, mais au fond, elles ont quelque chose en commun. Et puis, on sent quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui, c'est cette notion de sororité. Dès que l'une est en danger, l'autre est présente. Et dans un sens comme dans un autre, il y a quelque chose de très... une forme de solidarité entre sœurs qui est très touchante, je trouve.
Quelle place est-ce qu'elles occupent dans ta vie aujourd'hui ?
Elles occupent une place centrale et C'est peut-être pour ça que je suis fatiguée, mais moi, j'ai toujours pensé qu'on pouvait tout mener de front. Donc, c'est pas parce que mes enfants ont cette place centrale dans ma vie que je lève le pied sur le volet professionnel. Donc, tout est une histoire d'organisation. En fait, mon agence d'architecture est au rez-de-chaussée de l'immeuble dans lequel je vis. Et donc, cette porosité, elle est même géographique. Et mes enfants sont sans cesse à l'agence. Enfin, voilà, il y a une espèce d'aller-venue permanent, énormément de vie, du coup. Et elles sont, immergées, aspergées d'architecture et de beauté, donc à longueur de journée. Et en même temps, elles voient combien je me bats. Elles se rendent compte de ce qu'est d'être une femme dans une profession qu'on aurait tendance à dire masculine. C'est de moins en moins vrai. Elle se féminise de plus en plus. En revanche, il y a un volet qui n'évolue absolument pas, c'est celui des chefs d'entreprise, des femmes architectes à la tête d'une agence, il y en a extrêmement peu.
Qu'est-ce que la maternité a changé chez toi? Qu'est-ce qui s'est passé le jour où tu es devenue mère?
Je crois que j'ai cessé de penser à moi. C'est quelque chose de gigantesque qui nous avale au quotidien. Je suis omnubilée par mes enfants, où que je sois, en permanence, au quotidien. Je crois que c'est quelque chose qu'ont toutes les mamans, de tout anticiper pour nos enfants. Donc oui, on a cette espèce de but ultime de faire que nos enfants aillent bien et grandissent le mieux possible. Et en même temps, quand Marie-Amélie est née, j'avais vraiment à cœur de poursuivre cette carrière professionnelle d'architecte, et plutôt seule. Quand elle est née, j'ai fait le choix de partir et de créer ma propre structure, et de toujours la diriger seule, entourée de collaborateurs, collaboratrices, mais en étant seule.
Tu parles de la façon dont tu penses constamment à tes enfants, à tes deux filles. Est-ce que tu étais de nature inquiète avant, ou est-ce que ça s'est manifesté à leur naissance?
Oui, je crois qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Quand un enfant naît, c'est d'une violence folle dans la vie d'une femme et d'un homme aussi, je pense. Hein. Mais cet amour qui naît spontanément et qui recommence quand l'autre arrive, enfin, c'est quelque chose qui nous échappe de façon absolue, mais qui m'habite. C'est jamais un effort. Rien n'est jamais forcé. Pour moi, c'est comme ça. C'est vital, en fait. C'est vital qu'elles aillent bien. Cette histoire de maternité, je pense que on n'a pas la nécessité d'avoir des enfants pour avoir ça en soi, pour avoir cette valeur-là. Le fait de prendre soin, d'être dans une certaine forme d'abnégation.
Comment tu te sens dans ta peau de maman?
Je me sens parfaitement à ma place. Et c'était d'ailleurs vital pour moi d'avoir un enfant quand je l'avais décidé. Donc, j'avais un désir de maternité très fort et je suis très heureuse d'avoir deux filles. Je pense que ça redouble certainement l'intérêt de la transmission. Tout ce que je le fais pas pour pouvoir leur démontrer que c'est possible. J'aime qu'elles s'accaparent tout ça et qu'elles en fassent quelque chose pour elles ensuite.
Et qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre, justement? Qu'est-ce que tu leur apprends par rapport à la féminité?
Je pense que je leur apprends des choses de façon consciente et de façon très inconsciente. Quand je les observe, on voit qu'elles attrapent des choses que j'ai jamais dites, montrées. Voilà, c'est quelque chose d'assez naturel et plutôt magique. Le spectacle qu'elles m'offrent sur leur façon de s'accaparer cette féminité, je leur apprends à prendre soin d'elles. Et autant il y a une forme d'évidence pour la plus petite, Mathilde, autant pour Marie-Amélie, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, c'est passer plus de temps à lui dire qu'elle est belle, qu'elle est faire en sorte qu'elle ait confiance en elle.
Comment tu te sens dans ta peau aujourd'hui?
D'une façon un petit peu légère, l'été arrive, donc ça veut dire la mer, ça veut dire tant de choses extrêmement agréables où la peau est à l'honneur, d'où les promesses d'un été réussi. Mais d'une façon un petit peu plus sérieuse, je crois que je suis en train de faire une espèce de bilan de tout ce que j'ai entrepris depuis quantité d'années, depuis ce bouleversement immense, et des promesses, parce que je pense que dans les mois qui viennent ou avant la fin de l'année, voilà, je pense qu'un certain nombre de choses nouvelles, importantes, vont s'opérer. Ouais, c'est une nouvelle décennie qui arrive et qui sera extrêmement importante pour ma carrière et qui sera tout aussi décisive pour l'orientation de mes enfants. Voilà, on a toutes les trois des trucs extrêmement importants qui arrivent.
Je suis Lauriane Meulière et vous venez d'entendre Amélia Tavella dans Émotion de peau. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à Émotion de peau, partagez-les, réécoutez-les, commencez par le premier ou laissez-vous glisser depuis la fin. Au passage, n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos étoiles. Émotion de peau est un podcast de MyBlend produit par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Média en collaboration avec Plume Rédaction. Karen Loyer a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode et la musique était de Marine Kéméré. J'ai hâte de vous retrouver, ici ou ailleurs, je vous dis à la prochaine.